Bonsoir, l'actualité des Alpes du Sud de ce vendredi 12 juillet, les titres. 6 mois de prison ferme, 5 ans de privation des droits civiques et 75 000 euros d'amende requis à l'encontre de Génération Identitaire. Trois de ses membres, dont le président et le porte-parole, étaient convoqués devant le tribunal correctionnel de Gap hier. Le jugement est mis en délibéré et sera rendu le 29 août prochain. Plus de 400 000 km de fibres installées sur les Alpes du Sud. Objectif, déployer la fibre sur les Hautes-Alpes et les Alpes d'Haute-Provence d'ici 2022. Savines-le-Lac, capitale des séries, ce week-end, la commune accueille le festival Lac en série, au programme notamment des tournages en pleine rue. La semaine du mondial de l'escalade débute demain à Briançon. 8 jours de manifestation à l'occasion de cette 30e édition. 800 compétiteurs sont attendus. Mais pour commencer, deux femmes ont perdu la vie dans un accident de la route ce vendredi vers 14h. Il s'est produit sur la RD13 à Man. Deux véhicules se sont percutés frontalement. À bord, une femme de 74 ans dans le premier véhicule et une femme de 37 dans le second. Malgré l'intervention rapide des secours et d'importants moyens déployés, 20 sapeurs-pompiers de Forcalquier, Rayanne, Saint-Étienne-les-Orgues, Volks, mais aussi le SAMU de Manosque et l'hélicoptère Choucas 04 avec le SMUR de Digne, les deux victimes sont décédées. L'intervention a pris fin vers 16h30. Notez que la circulation a été coupée le temps de l'intervention. Victoire de l'Algérie. Hier soir, les célébrations ont dégénéré à Manosque. Un attroupement s'est formé peu après 21h, porte de la sonnerie. Des dégradations ont été commises sur un bar se trouvant à proximité. 4 policiers qui se sont rendus sur place ont essuyé des tirs de projectiles, notamment de pierre. Pas de blessés à déplorer, précise le commissariat. Il n'y a pas eu d'interpellation. 6 mois de prison ferme, 5 ans de privation des droits civiques et 75 000 euros d'amende requis à l'encontre de Génération Identitaire. Trois de ses membres, dont le président et le porte-parole, étaient convoqués devant le tribunal correctionnel de Gap hier suite à l'action anti-migrants menée à la frontière dans le Briançonnais sur plusieurs semaines entre avril et juin 2018. La justice leur reproche d'avoir créé dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique. À la barre, seul un prévenu, Clément Gandelin, le président de l'association apparentée d'extrême droite. Le porte-parole Romain Espineau et Damien Lefebvre, membres du groupe, ont refusé de faire le déplacement. Mais Clément Gandelin a gardé le silence hier, déclarant uniquement en ouverture du procès qu'il s'agissait d'une procédure politique face à une action qui se voulait, je cite, pacifique. Pour le procureur, les membres de Génération Identitaire ont entretenu la confusion dans les esprits avec des fonctions de gendarmes ou de policiers en menant des maraudes, des enquêtes sur les passeurs et en appelant sur les réseaux sociaux à sécuriser et surveiller la frontière. Une pièce de théâtre politico-médiatique, voilà comment la défense, représentée par Maître Pierre-Vincent Lambert, a qualifié ce procès. Il demande la relaxe.
J'étais surpris par la sévérité des réquisitions, alors même que le procureur lui-même estimait dès le départ qu'il y avait un énorme doute juridique sur l'application de ce texte. On aurait pu faire preuve de modération à partir du moment où ce doute existe sur les peines. Non, c'est clairement ce qui est requis est assez délirant.
Pour vous, il n'y a pas confusion ?
Non, c'est évident qu'il n'y a pas confusion. Qui a pu penser ? C'est exactement l'inverse. C'est ce que j'ai plaidé. C'est exactement l'inverse. Qui a pu penser que mes clients étaient des gendarmes ou des policiers ? Personne. Personne dans le dossier n'a cru ça. Il faut être fou, aveugle ou avoir une maladie.
De son côté, Clément Gandelin a expliqué se murer dans son silence pour des raisons personnelles. Mais après 5 heures d'audience, hier devant la presse, il a exprimé son ressenti.
Une réquisition qui est quand même assez forte, assez délirante pour... des faits qui au final sont grandement tirés par les cheveux. On attend le délibéré du 29 août et quoi qu'il en soit, si on prononce une condamnation contre Génération Identitaire, un appel sera lancé. Écoutez, nous on est des militants politiques. C'est pas parce qu'il y a des condamnations, parce qu'il y a des sanctions qui sont prononcées. Qu'on va abandonner notre idéal politique. Nous, on combat par conviction, peu importe la répression, peu importe les sanctions qu'il y aura derrière.
Des propos recueillis par Olivier Milleville, le jugement est mis en délibéré et sera rendu le 29 août prochain. La FDSEA et les JA dans les Alpes de Haute-Provence appellent à se mobiliser demain devant la préfecture. Le rendez-vous est donné dès 7h30 à tous les agriculteurs pour exprimer, je cite, leur mécontentement face à l'accord qui doit être ratifié entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Une session plénière en pleine vacances ce vendredi au sein du conseil départemental des Hautes-Alpes et pas des moindres pour autant puisque les sujets étaient d'importance. L'un des premiers sur lesquels la majorité de Jean-Marie Bernard était attendue, c'était le rapport de la Chambre régionale des comptes qui relevait certaines irrégularités dans la gestion du cabinet du président. Mais le travail de l'opposition s'est fait ce vendredi sans l'un de ses représentants, Gérard Fromm, et son binôme, Aurélie Poyot. Un rapport mettant en exergue, comme le disait Pascal Boyer, la conseillère départementale de Gap et députée, un potentiel enrichissement personnel au détriment de l'intérêt général.
Je regrette que la présentation de cet important rapport de la Chambre régionale des comptes sur votre gestion se fasse déjà en plein été. Au moment où nos concitoyens pensent plus aux vacances que de se préoccuper de la manière dont vous gérez le département. Je regrette l'absence de certains collègues qui ne pourront pas faire leur travail de contrôle, qui est aussi notre devoir en tant qu'élus de notre Assemblée. C'est pourquoi, malgré tout, je pense utile et nécessaire de le faire avec précision ce jour. Car ne rien dire serait affaiblir la confiance que nous avons de nos concitoyens. Car nos concitoyens, je le fais aussi en tant que citoyenne, en tant que députée et en tant que conseillère départementale. Nos concitoyens ne comprendraient pas que je ne dise rien, pire encore, que mon silence puisse être interprété comme une forme de complicité.
Autre sujet, c'est la position du département alors que l'État français est contraint par l'Europe à ouvrir la gestion de 150 de ses barrages et la collectivité veut y prendre part au travers d'une société d'économie mixte mêlant privé et public. Pour Jean-Marie Bernard, il s'agit d'avoir son mot à dire dans la gestion de l'une des richesses départementales.
C'est pourquoi notre département doit faire entendre sa voix pour préserver cette ressource qui est fragile, impacté par les changements climatiques, et puis qu'il est nécessaire de réguler des usages croissants et multiples qui induisent une consommation bien au-delà des limites géographiques du département et partagent de façon plus équitable les richesses ainsi créées. Dans ce contexte, les enjeux énergétiques, environnementaux, économiques et de sécurité liés à la gestion des barrages hydrauliques sont considérables.
Une délibération qui ouvre la voie au département de gérer les barrages hydroélectriques, notamment Serre-Ponçon. Une richesse sur tous les points qu'il faut garder en son giron. C'était le message d'Yvan Chex, le directeur de l'Agence de développement économique et touristique.
C'est 50% de la production électrique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Serre-Ponçon, la chaîne du Rance-Verdon, c'est le cinquième plus gros gisement d'énergie renouvelable en France. C'est essentiel pour l'activité agricole. Il y a quelques 100 000 hectares qui sont irrigués en aval du barrage. C'est aussi des activités industrielles. On retrouve quelques 440 grandes industries qui sont alimentées par l'eau des Hautes-Alpes. Sanofi, l'Occitane, CEA, Cadarache. On oublie souvent cet élément-là. Et puis il y a le loisir, il y a le tourisme, avec une progression considérable ces dernières années. Le tourisme, c'est un tiers de la richesse économique des Hautes-Alpes. Et Serre-Ponçon, à lui seul, porte un tiers de la fréquentation touristique estivale des Hautes-Alpes et 10% du chiffre d'affaires touristique annuel de notre département.
Un rapport qui a été adopté à l'unanimité. 100% du territoire des Alpes du Sud couvert d'ici 2022 par la fibre. 400 millions d'euros vont ainsi être investis par SFR Altis pour le déploiement de la fibre sur les Alpes du Sud, mais aussi sur les Bouches-du-Rhône. Ce jeudi avait lieu la signature des conventions régionales et départementales pour ce déploiement. D'ici 2022, ce sont 114 000 prises qui vont être installées dans les Alpes d'Haute-Provence et 134 000 sur les Hautes-Alpes. Le syndicat mixte ouvert Provence-Alpes-Côte d'Azur avait en effet décidé l'an passé de résilier le contrat de délégation de services publics, pointant du doigt la lenteur du déploiement. L'opérateur privé SFR Altis va donc mettre en place sur fonds propres la fibre optique sur les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Ce sont plus de 400 000 km de fibres qui vont être installées. Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Peut-on imaginer notre société sans électricité ou sans téléphone ? Eh bien, demain, sans fibre, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire que la fibre nous permet de nous connecter et nous permet de faire de la télémédecine. Donc ça lutte contre les déserts médicaux, ça permet la réimplantation d'entreprises, ça permet d'avoir le Wi-Fi dans les écoles, dans les trains, dans les bus, dans les voitures, partout. Et donc si vous ne pouvez pas imaginer un département comme les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, dans une région comme la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec 5 millions d'habitants, 6 départements, avec des fractures numériques qui entraîneraient des fractures sociales. Et donc ce travail est un travail d'avenir. C'est ce qu'on essaye de construire avec la région, où tous les investissements qui sont faits autour d'une décision qui est assez simple. Nous voulons des résultats sur 3 ans avec une vision sur 20 ans.
Dans les Alpes de Haute-Provence, la France Insoumise 04 dénonce le manque de transparence de cette procédure, alors que le déploiement du très haut débit a été confié à SFR. La France Insoumise, qui réclame un moratoire sur l'attribution du marché dans les Alpes de Haute-Provence. Réponse de Renaud Muselier sur Alpe 1.
Il devrait se réjouir du calendrier, de la totalité du dispositif et des 100% couverts. Ça a été fait en totale transparence. On avait pris du retard avec de l'argent public. Et aujourd'hui, on trouve un accord partenarial avec le numéro 1 mondial qui a fait Long Island et New York, qui a fait le Portugal, qui a fait, bien entendu, le territoire français, qui est un partenaire français. Alors, plutôt que d'être toujours contre tout, la fracture numérique... Entrant une fracture territoriale, il devrait dire merci à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'avoir trouvé une solution pour connecter tout le monde avec zéro zone blanche, et ceci en toute transparence.
Dossier à retrouver sur alpe1.com. Dans cette édition, on prend la direction de Savines-le-Lac, où une trentaine de comédiens de séries télévisées seront présents tout le week-end. C'est à Marseille que l'événement Lac en série a été présenté mercredi. Cyrielle Michard avec notre correspondant Olivier Milleville.
Week-end showbiz et caméra en perspective dès ce vendredi et pendant 3 jours à Savines-le-Lac, une commune qui nous avait déjà habitués à ses rendez-vous autour du petit écran, puisqu'à partir de 2009, elle avait accueilli pendant 3 années de suite ce festival basé sur la rencontre avec des acteurs de séries télé, mais avec une particularité cette année, celle de se tourner vers les web-séries. Patrick Georges est l'organisateur.
Alors on va positionner la ville, parce que moi je dis la ville parce que c'est un gros village, mais Savines-le-Lac, comme une ville pilote pour justement pour les pilotes de web-séries. Il se trouve qu'en France, il n'y a pas d'endroit dédié, comme par exemple la BD, Annecy. Il y a des villes qui sont comme ça ciblées par rapport à un art que moi j'appelle majeur. Les web-séries, c'est aujourd'hui l'équivalent du court-métrage au cinéma. Les web-séries, c'est ce qui va révéler des acteurs et des réalisateurs qui vont marcher auprès du public et qui vont devenir des séries connues et qui passeront en futur à la télé. Et c'est pour ça que Savines-le-Lac sera la première ville dédiée au tournage de web-séries, et c'est ce qui se passera pendant 3 jours.
Le festival fait donc son grand retour en 2019 avec plusieurs tournages de mini-séries produites sur le web qui seront effectués en public afin de permettre à ce dernier de découvrir et apprécier le talent de jeunes réalisateurs et acteurs. Victor Béringuel, le maire de Savines-le-Lac.
Sur l'ensemble de Savines-le-Lac, ça va être la grande révolution puisque les acteurs vont se fondre, j'allais dire, dans la population sédentaire. Eh bien, ils vont monter des petits clips, des scénarios très courts, très brefs, où finalement ils vont pouvoir tous s'exprimer. Et je crois que ces web-séries, ça va permettre aux enfants, vous savez, maintenant ils ont tous leur petit iPhone, ils vont pouvoir communiquer, dispatcher ça à la famille, et ça va les valoriser, tout en se valorisant bien sûr Savines-le-Lac et Serponçon bien sûr.
Parmi la trentaine de personnalités invitées, de grands noms des séries, du cinéma et du théâtre sont annoncés comme Marthe Villalonga, Natacha Amal, Gabriel Lazur, Bernard Ménès, Saïd Jawad et aussi des acteurs de la série phare de France 3, Plus belle la vie, comme le commissaire Paul Bauer, interprété par Stéphane Hénon.
On pourra venir discuter, on pourra faire des selfies, comme c'est la mode, on fait des selfies partout. On fera des selfies, on signera des autographes, on sera là, on pourra discuter, on pourra échanger avec grand plaisir, pas sur les intrigues qui arrivent, parce que ça, on ne peut pas.
Même écho du côté d'Élodie Varlet, connue pour son rôle d'Estelle Cantorel.
Ça fait un petit moment que Patrick Georges, qui organise donc tous les festivals un petit peu à droite à gauche, il aime bien qu'on aille un petit peu en province comme ça, rencontrer un petit peu tout le monde. Et puis même nous, ça nous fait plaisir, ça nous fait découvrir des endroits super avec des gens qui sont en général très agréables et qui nous accueillent avec grand plaisir. Donc nous, c'est un peu les vacances. Hein.
Et ce soir, 21h, une pièce de théâtre inédite, On meurt si on veut, avec Rebecca Hampton et Anouk Franchini.
Merci Cyrielle, tout le programme est à retrouver sur alpe1.com.
Alpe 1 Sport. Alpe 1 Sport.
8 jours de manifestation à l'occasion du Mondial de l'escalade à Briançon. Cette 30e édition débute demain et propose cette année un format plus long. Le coup d'envoi sera donné par les enfants avec l'Open des Petits Gibbons. La Coupe de France Jeunes se tiendra dimanche 14 juillet, lundi 15 juillet. Puis mardi et mercredi prochain, place au championnat du monde Handi Escalade. De nombreuses animations seront proposées lors de la fête de la montagne, jeudi 18 juillet. Enfin, vendredi et samedi prochain, Briançon sera la 3e étape de la Coupe du Monde de difficulté senior. Franck Prigent, directeur technique du Mondial de l'escalade à Briançon.
La Coupe du Monde de difficulté, c'est le dernier événement, la dernière épreuve du Mondial de l'escalade. C'est quand même le moment qui est attendu par tous les Briançonnais et puis de tous les touristes et toute la vallée. On estime chaque année avoir à peu près 10 à 15 000 personnes sur l'ensemble de la manifestation. Et le soir des finales, on est autour de 8 000 personnes, je pense. Alors sur l'ensemble de la compétition, cette année, on bat un peu tous nos précédents records. On a, je crois qu'on a 800 compétiteurs, toutes épreuves confondues, sur l'ensemble de la semaine. Et puis sur la Coupe du Monde de difficulté, on aura, je crois, aux alentours de 180 compétiteurs répartis hommes et femmes.
Une organisation qui se prépare toute l'année, Franck Prigent.
La particularité, c'est que depuis peu, on a un mur qui est un mur à demeure qu'on n'avait pas auparavant. On avait plutôt un mur qu'on démontait, qu'on remontait et qui était un peu qui nous contraignait en termes de logistique. Là, depuis l'année dernière, on a investi le parc des sports de Briançon avec cette structure à demeure qui va continuer de s'étoffer d'année en année. Là, on a habillé deux faces, c'est un gros cube de grimpe donc avec deux faces d'habiller. L'année prochaine, on va finir les deux autres faces. Et la particularité, c'est aussi que c'est situé dans un complexe sportif qui est aussi en plein développement, qui existe depuis très longtemps, mais qui va continuer de se développer autour de l'escalade et des autres sports. Et surtout, ce qui fait la grande particularité, c'est qu'on va être maintenant en capacité d'accueillir un nombre de spectateurs qui va être conséquent.
Plus d'informations sur alpe1.com.
L'actu des Alpes du Sud continue sur les applications pour smartphones.